Cour d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jodard le 24 février 1992.
La question qu'on se pose, point de vue éthique religieuse, à quel moment apparaît le point de vue de l'autorité, puisqu'il n'y a d'obéissance que par rapport à l'autorité. C'est toujours lié l'un à l'autre. Et on fait des blocages entre autorité et pouvoir, entre autorité et paternité. Alors il faut débloquer tout ça. Parce qu'autrement, ça fait des impossibilités d'obéir. Et c'est intéressant. Je crois que c'est le propre de l'éthique. Alors, c'est un aspect critique de l'éthique que nous faisons là. C'est quand même de l'éthique. C'est quand même très important de savoir à quel moment apparaît l'autorité. Mais je vous laisserai une feuille de papier blanche. Je dirais, allez, faites une petite réflexion là-dessus. À quel moment naît l'autorité? Posez-vous la question, vous ne l'êtes jamais posée. Hein. Vous avez obéi comme des moutons de panurge, n'est-ce pas? Et puis c'est tout. Alors maintenant, il s'agit d'obéir avec intelligence. La philosophie est faite pour éveiller notre intelligence dans l'ordre pratique. On obéit parce qu'on a conscience que obéir, c'est s'agrandir. Oui, parce que quand on obéit, on se sert toujours d'un sycomore. Alors, on est tous de petite taille. Et quand on est de petite taille, on risque de se laisser emporter par la foule. On ne voit rien, la foule mouge. De droite et de gauche et de droite, et on se laisse emporter au bout d'un certain temps, on ne sait plus du tout si on est à droite ou à gauche, on est mu, c'est tout. Or, l'autorité doit être, au milieu de tout cela, un point fixe, qui est à notre service pour que nous atteignions notre finalité. Pour l'autorité, c'est nous empêcher de tomber dans des situations limites. L'autorité, c'est arrêter les angoisses. Un monde où il n'y a plus d'autorité, c'est un monde errant, au point de vue éthique, au point de vue moral. Errant, on ne sait plus. On suit ce que tout le monde fait, donc on est un errant. Un orphelin errant. Alors, il s'agit donc de bien déterminer et bien distinguer les trois. Paternité, autorité, pouvoir. Et discerner ça philosophiquement. La paternité, source de vie. À la racine de toute éducation, source de vie. Puisque on est responsable d'un être tout petit, embryonnaire. D'un enfant qui est incapable de se débrouiller tout seul. La paternité comme telle n'implique pas d'autorité. Elle est source de vie. L'éducation qui est remise au père en tant que le père doit éduquer, le père doit exercer l'autorité. Je crois qu'on peut dire ça, que l'autorité apparaît d'abord avec le père, et avec la mère, c'est évident. Je ne sépare pas les deux, là. Mais la maternité n'implique en elle-même aucune autorité. On est mère, on est responsable de l'enfant. Et l'enfant vous est remis. Et oui, Oui, parce qu'on n'a pas assez distingué les deux. Qu'il y a tellement de problèmes sur l'avortement. La maternité nous met responsables de l'enfant dans sa fragilité, dans sa faiblesse. Et plus il est faible, plus il est lié à la source, plus la source est responsable. Et la source immanente, c'est la mère. C'est la source immanente de l'enfant. Tandis que le père n'est jamais source immanente. Ça explique que le père est beaucoup plus libre à l'égard de l'enfant. La mère est liée à l'enfant. Et la mère est tellement liée à l'enfant que plus il est petit, plus la mère est inséparable de lui. Une source maternelle immanente. L'autorité apparaît non pas au niveau de l'être, mais au niveau du devenir dans l'être. Au niveau donc de la vie qui doit croître. C'est en raison de la croissance que l'autorité apparaît. Il faut que l'être grandisse. Et voyez, on voit très bien comment le pater familias, donc le père qui a autorité, qui veut avoir l'autorité souveraine, c'était le pater familias latin, ça, ne veut pas que l'enfant grandisse. Je me souviens, ce prêtre, c'était un dominicain, qui a regardé des garçons grandir. Et ah, oh, c'est terrible. Ce qu'ils étaient gentils quand ils étaient petits. Oui, alors on voit très bien le pater familias. Il ne veut pas que les enfants grandissent. Parce que quand ils grandissent, ils deviennent insupportables. Crise de croissance. Pas de crise de croissance quand ils sont dans le berceau. Et ça, c'est terrible. Et vous voyez, c'est parce qu'on a confondu la paternité et l'autorité. Alors on veut garder. Et pour la mère, c'est ça qu'on appelle une mère captative. La mère captative, c'est la mère qui ne voit pas qu'elle est au service de l'enfant. Et si elle est au service de l'enfant qu'elle doit grandir, elle est relative à l'enfant. Et donc elle doit accepter que l'enfant lui échappe et que l'enfant grandisse. La paternité, quand elle se met à exercer l'autorité, elle doit s'appauvrir pour devenir un service. Elle n'est plus source. On est serviteur de celui qui doit grandir. Et on fait tout pour lui permettre de grandir. On crée un climat qui permet à l'enfant de grandir et d'acquérir progressivement son autonomie. Et donc il faut accepter de mourir, de disparaître, comme père et comme mère, pour que l'enfant grandisse. C'est ce qu'il y a de plus difficile, d'être pauvre dans sa paternité, et pauvre dans sa maternité. Alors voyez, je crois que l'autorité apparaît en premier lieu avec la paternité et la maternité. Si ceci est vrai, il me semble, il faut être pour devenir, il faut être vivant pour croire. Et pour être et être vivant, c'est la paternité et la maternité. Nous n'existons que grâce à nos parents. Il faut le reconnaître. Tant que vous ne l'avez pas reconnu, il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Nous n'existons que grâce à nos parents. Tu as voulu que ce soit comme ça. Vous pouvez dire, tu as très mal combiné son histoire. Ça c'est autre chose. C'est un jugement que vous portez sur la sagesse de Dieu. C'est pas ici qu'on va le traiter. C'est dans un jugement de sagesse qu'on doit le traiter, ça. De voir que c'est souverainement sage de la part de Dieu d'avoir fait ça. mère nous a portés cachés. C'est les catacombes. L'homme est lié aux catacombes. Lié aux catacombes maternelles. Et c'est très très curieux, c'est très mystérieux, ça. Alors, c'est à partir de ces catacombes qu'apparaît l'autorité pour permettre à l'enfant de grandir. C'est donc un service qui apparaît à partir d'un don. Paternité, maternité implique un don. Gratuite, tout à fait gratuite. Un don obscur. On donne la vie sans savoir très bien ce qu'on fait. Il vaut mieux. On voudrait aujourd'hui savoir ce qu'on fait. Alors on fait intervenir l'art. Et on détraque tout. Parce que le don de la vie repose sur une source naturelle et une plénitude de vie. Et qui est obscure, les catacombes. Les catacombes biologiques. On creuse les catacombes biologiques pour intervenir, pour voir. C'est très intéressant, je comprends très bien. Mais attention, attention, étant donné la fragilité de l'être humain, la fragilité de l'embryon, on n'intervient que lorsque on sait dissocier telle chose de telle autre chose. Quand on ne sait pas, on risque, en intervenant, de blesser ce qu'on ne voudrait pas blesser. C'est tout le problème. Quand un chirurgien vous pose des questions là-dessus, et il y en a qui vous posent, un chirurgien chrétien vous pose des questions là-dessus, est-ce qu'on a le droit? Et je comprends très bien qu'il se pose des questions. Et jusqu'où peut-on le faire? Oui, parce qu'il y a une connaissance du mal qui quelquefois est terrible quand on ne peut rien faire. Et c'est une connaissance du mal anticipée à la connaissance naturelle. Naissance de l'autorité. Puisque paternité et maternité présence d'opérations vitales, fondamentales. On ne peut pas aller plus loin. C'est radical, c'est substantiel. Et alors là, apparaît l'autorité. Donc, on comprend que l'autorité s'enracine dans l'amour de l'homme et de la femme, dans leur amour mutuel, s'enracine à partir de la famille. C'est donc un problème très important. Une famille n'existe plus s'il n'y a plus d'autorité. Et quand la famille n'existe plus, l'autorité disparaît. C'est mutuel, ça. La famille est gardienne de l'amour. Et la famille est gardienne de l'éducation. Et la famille est gardienne de l'autorité. Et la famille n'a pas le droit d'abdiquer cette éducation pour la remettre à quelqu'un d'autre. Mais c'est là où il y a des abus de l'État. Comme si l'État avait autorité pour éduquer. Et pourquoi l'État n'a pas d'autorité pour éduquer? Parce que l'éducation regarde au point de vue de la finalité. Et que l'État ne regarde que le bien commun. Le conditionnement. Et donc l'État n'a pas le droit d'usurper ce droit sacré. Et c'est un droit sacré, l'éducation. Vous voyez, l'autorité apparaît là comme quelque chose de sacré. Puisqu'elle est liée à la procréation. Réfléchissez là-dessus, hein. Ça m'intéresse beaucoup, moi. Savoir si ce que je vous dis là est juste. Ou si je pourrais dire que l'autorité apparaît en dehors de cela. C'est sûr qu'elle apparaît en dehors de cela. Mais est-ce que ce n'est pas le premier moment? Et que si on supprime ce premier moment, on supprime tous les autres, d'une certaine manière. Pourrais-je dire, par exemple, que l'autorité apparaît à partir du facere, de l'activité économique, de l'activité artistique, donc dans la communauté des travailleurs? Est-ce que c'est la communauté des travailleurs qui est le lieu premier où l'autorité apparaît? Mais, question à se poser. C'est sûr que dans la communauté des travailleurs, il y a l'autorité. Dès que vous êtes deux à faire quelque chose, il faut l'autorité. Autrement, c'est la pagaille et c'est la rivalité. Tout de suite, dès que vous êtes deux à faire quelque chose, vous ne pouvez pas coopérer sans qu'il y en ait un qui commande et l'autre qui obéit. Alors, est-ce que l'autorité apparaît en premier lieu dans la communauté du travailleur ou dans la communauté familiale? Vous pouvez répondre qu'elle apparaît dans les deux communautés. Ça, c'est sûr. Parce que je crois qu'on en arrive à dire que partout il y a communauté, il y a autorité. Or, il y a la communauté familiale qui est fondamentale. Il y a la communauté des travailleurs qui est nécessaire. Il y a la communauté politique qui est, elle aussi, nécessaire. Et d'une nécessité différente. Vous auriez donc trois types d'autorité. Trois modalités d'autorité. Mais l'une est fondamentale. L'autre est nécessaire. Mais elle n'est pas fondamentale. Alors, y a-t-il un lien de nécessité entre ces trois communautés? Communauté familiale, communauté des travailleurs, communauté politique. Y a-t-il un lien? Autrement dit, est-ce que la communauté des travailleurs réclame la communauté familiale? Est-ce que la communauté politique réclame la communauté des travailleurs et la communauté familiale? Quel lien y a-t-il entre ces trois communautés? Ce sont des questions qu'il faut se poser au plan philosophie politique. Éthique et politique se tiennent. Nous l'avons déjà vu. et j'ai insisté là-dessus. Donc c'est tout à fait normal que je me pose la question maintenant à propos de l'autorité, puisque l'autorité apparaît dès qu'il y a communauté. Si vous êtes seul, pourquoi avez-vous la nostalgie de la solitude au désert? Je suis loin de l'autorité. Le Père Maître est loin, je suis au désert. Pas besoin d'apparaître au premier coup de cloche. Je suis au désert. Alors, il ne faut pas que le désert ne soit que cela. Si le désert n'est que cela, c'est une fuite. Il faut que le désert fasse vivre la dépendance directe à l'égard de Dieu. C'est le propre du désert. On se coupe de toutes nos autorités pour être seul avec Dieu. L'adoration. Si le désert n'est pas le lieu de l'adoration, c'est le lieu de la fuite. Alors à ce moment-là, c'est très mauvais. C'est négatif. C'est pas du tout positif. Et ça, c'est très facile à comprendre. Psychologiquement, on comprend ça très très bien. Qu'il y ait dans le désert un tout petit peu le lieu de la détente et le retour à une certaine autonomie, c'est normal. Grâce à l'adoration. Et si l'adoration n'est pas là, alors c'est la pagaille, c'est l'anarchie. Ah, je suis seul, je fais ce que je veux. Pas du tout. Au désert, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce que Dieu veut sur vous. Et vous devez avoir un règlement de vie au désert. Autrement, vous perdez votre temps. Et le démon s'en charge. Pourquoi le désert est-il le lieu où rencontre le démon? À cause de ça. Parce que tout n'est pas déterminé. Et qu'on croit que le désert, c'est le lieu de la détente. Le désert n'est pas finalisé par la détente. Le désert est finalisé par l'adoration. Oui, comme c'est intéressant, ça. De voir que l'adoration réclame le désert. Éthique religieuse. Alors que l'éthique humaine commande la communauté et par la communauté l'autorité. Donc l'autorité n'apparaît pas premièrement avec l'aspect religieux, contrairement à ce que je vous avais dit à titre d'hypothèse. Donc là je conclue, et si vous n'êtes pas d'accord, levez vos objections, pas maintenant mais en y réfléchissant. Parce que c'est très important. Il y a une crise d'autorité aujourd'hui. Freud a tué l'autorité. Ça, c'est sûr. L'autorité paternelle. Et son disciple a tué l'autorité maternelle. Donc, il faut qu'on redécouvre le fondement propre de l'autorité. Pour être libre de Freud. On ne se libère de Freud que par la vérité. Tant qu'on n'a pas atteint la vérité, on n'est pas libéré de Freud. On est esclave de ces idéologies freudiennes. Alors, il faut se libérer de cela par la vérité. Et la vérité, c'est chercher à quel moment l'autorité apparaît. Au niveau communautaire, vous n'entrez pas au désert, premièrement, pour l'exercice de l'obéissance. Oui, l'exercice de l'obéissance par rapport à Dieu, dans l'adoration, mais pas par rapport à l'obéissance vis-à-vis de ceux qui exercent autorité sur la terre. Alors, il me semble bien qu'on doive dire que partout il y a communauté humaine, il faut l'autorité pour qu'il y ait un ordre. Et qu'on évite la pagaille. Et qu'on évite l'anarchie. Il y a un ordre. Et cet ordre est en vue d'une efficacité plus grande. Et en vue d'atteindre la fin. Et celui qui exerce l'autorité doit toujours regarder quelle est la communauté dont il est responsable. Et quel est le bien commun de cette communauté pour en être parfaitement le gardien. c'est que l'autorité? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que la paternité? Je crois qu'on peut dire tout de suite que l'autorité, c'est celui qui doit exercer un service en face de quelqu'un dont il doit prendre la responsabilité. Quelqu'un incapable par lui-même de découvrir les exigences profondes de la finalité. Ce ne sont pas les exigences personnelles qui passent dans l'autorité. Ce sont les exigences propres de la fin, ce vers quoi je tends. Autrement, l'autorité devient subjective et alors elle est très très liée au pouvoir. Et elle devient très vite tyrannique. Il faut que l'autorité soit personnelle, mais qu'elle soit non tyrannique. Et donc, pour qu'elle soit personnelle et non tyrannique, il faut qu'elle soit un service d'amour pour permettre à tous ceux sur qui on exerce autorité qu'ils découvrent leur bien propre, leur finalité propre. Donc l'autorité ne s'impose pas de l'extérieur. Elle est un service qui manifeste la manière dont on doit atteindre la fin, sa propre fin. L'autorité porte donc sur le conditionnement et le comment. Comment atteindre ma fin? L'autorité ne donne pas la fin. Mais elle éclaire. Et elle montre comment on doit atteindre cette fin, concrètement, les moyens. Les diverses manières d'atteindre cette fin. Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait légitime et tout à fait juste de dire que l'autorité est un service d'amour en vue de la finalité. Et pour que ce service puisse se faire, puisse s'exercer, puisse être efficace, il faut la confiance totale entre ceux qui exercent l'autorité et ceux qui la subissent. Et dans cette perspective-là, on peut dire que celui qui exerce autorité et celui qui obéit, tous les deux ont le même bien qu'ils poursuivent. Ils sont liés dans le bien qu'ils poursuivent, dans la finalité qu'ils poursuivent. Et l'obéissance, ce que je vous disais, est une anticipation de l'union avec la fin. Grâce à l'autorité, j'atteins plus immédiatement ma fin. Grâce à l'autorité, l'union affective avec l'union affective qui me lie à ma fin, cette union affective va pouvoir se concrétiser, s'incarner, devenir une union affective. Et bien, c'est là où joue l'autorité, ce passage entre l'union affective à l'union effective. Celui qui n'obéit pas aura une peine énorme de rester dans le réalisme de l'amour. Il idéalisera l'amour très vite. Et l'obéissance, l'autorité est là pour empêcher cette idéalisation. Et l'autorité et l'obéissance est là pour réaliser cela. Mais c'est quelque chose de capital dans la vie humaine où il y a croissance. Celui qui n'aura pas coopéré avec l'autorité à cause des influences de Freud, bien celui-là aura perdu beaucoup de temps. Je ne dis pas qu'il n'arrivera pas. Non, pas du tout. Il y a des autodidactes et des auto-éducations personnelles. C'est pas impossible, la nature permet ça. Nous avons une nature qui nous permet d'atteindre notre fin. Mais l'autorité est un moyen privilégié pour gagner du temps. C'est la voie express. l'efficacité spirituelle doit être la plus forte et où le passage de l'union affective à l'union effective doit être la plus puissante. L'autorité donc exige la connaissance de la fin et la connaissance de celui sur qui on exerce cette autorité. La connaissance du milieu dans lequel on est et des divers instruments qui peuvent aider. Parce qu'il s'agit de faire une œuvre commune avec celui qui obéit. Donc, l'autorité naît en éthique humaine tout court. Cependant, alors ajoutez bien ça, cependant, l'éthique religieuse va me donner une lumière nouvelle sur l'autorité. Alors, quelle est cette lumière nouvelle que l'éthique religieuse donne sur l'autorité? Puisque l'éthique religieuse me met en présence de l'adoration. L'adoration, c'est la première coopération que j'ai à l'égard de celui qui exerce sur moi l'autorité suprême. Le Père par excellence, c'est Dieu, et le Père de mon âme. Puisque c'est le Père de mon âme et le Père de mon esprit, c'est lui qui exerce sur mon âme spirituelle l'action la plus directe, la plus immédiate. Et puisque l'autorité est avant tout volontaire, et que l'obéissance elle-même est volontaire, je comprends très bien que l'autorité s'exerce en premier lieu d'un point de vue spirituel. Alors, s'il y a adoration, il y a donc une communion profonde avec le Dieu créateur. Et à partir de là, je peux comprendre mieux la responsabilité que Dieu me donne en tant que créature. Qui, en tant que créature, ne devrait pas exercer l'autorité. Il n'y a qu'un seul Père, il n'y a qu'un seul Maître, Dieu. La créature comme telle ne peut pas exercer l'autorité. Parce que je ne connais pas la finalité, avec suffisamment de netteté. Mais, l'adoration me mettant en contact direct avec le Créateur, contact direct, vous voyez ce que je veux dire, expérience qui me permet de reconnaître la présence du Créateur, mais je n'ai pas l'expérience du Créateur. Il faut être très précis là-dessus, hein, et le voir intellectuellement, pas simplement le répéter. Le voir intellectuellement, tant que vous ne l'avez pas vu, répéter des actes d'adoration et analyser ces actes d'adoration philosophiquement. Mettez le plus de lumière possible dans cette adoration. Et vous verrez que l'adoration ne vous donne pas un contact direct avec Dieu, mais permet la présence, et donc permet la contemplation. Et donc l'adoration, qui ne me donne pas un contact direct avec Dieu, permet cependant à la créature de pouvoir s'approcher du Créateur et de reconnaître que si on a autorité paternelle, maternelle, cela vient de Dieu. Puisqu'on a coopéré avec Dieu dans la procréation. Lien ontologique de l'âme et du corps. L'âme est unie substantiellement au corps. Elle lui donne la vie. Elle fait que ce corps est un corps vivant. Cette union substantielle et ontologique doit prendre possession de toutes mes opérations humaines. C'est-à-dire que toutes mes opérations humaines volontaires pour réaliser cette sorte d'incarnation du spirituel à travers ma sensibilité que l'autorité doit s'exercer. L'autorité ne donne pas à l'enfant son amour de Dieu, son amour de la fin qu'il poursuit, mais il lui montre les moyens de l'atteindre d'une manière efficace. L'autorité doit donc montrer, éclairer la prudence de l'enfant, du jeune, en montrant le lien entre cette fin et ce moyen, et expliquer ce lien pour faciliter l'obéissance. Elle porte là l'autorité dans son exercice. Et l'obéissance consiste à recevoir ce jugement de celui qui exerce l'autorité, de le recevoir librement et amicalement, en pleine confiance, pour pouvoir coopérer avec lui. Et en coopérant, on obéit. Il n'y a pas d'obéissance sans coopération. Et c'est l'autorité qui permet cette coopération, une autorité qui s'exerce véritablement, prudentiellement. L'aspect religieux permet à l'autorité du père et de la mère d'avoir un enracinement beaucoup plus profond, puisque c'est Dieu créateur de l'âme et les parents qui transmettent la vie biologique humaine, qui demandent cette vie d'être assumée par l'âme spirituelle et transformé par l'âme spirituelle pour que tout dans nos activités soit volontaire, capable de remonter jusqu'à Dieu. Que vous mangiez, vous buviez, glorifiez le Seigneur. Voilà l'éthique religieuse. Des actions qui en elles-mêmes sont uniquement terrestres, horizontales, prennent subitement, grâce à l'aspect religieux, une dimension verticale. Les parents exercent l'autorité mandatée par Dieu, parce que Dieu leur a confié cet être dans sa fragilité, sa petitesse. Ils sont, eux, mandatés par Dieu pour les aider, les éveiller. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important à voir, c'est que l'éthique religieuse va préciser l'autorité exacte des parents à l'égard du petit enfant et l'autorité exacte